Europe 1,
5h, 7h, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour prendre connaissance de l'actualité du jour et se réveiller, nous l'espérons avec le sourire. 2 heures au cours desquelles nous essayons aussi de décrypter l'actualité. Debout les copains se poursuit donc avec l'éclairage historique de Fabrice Dalméda. Monsieur Histoire d'Europe 1 revient ce matin sur les relations entre les États-Unis et le Vietnam alors que se déroule aujourd'hui à Hanoï une rencontre déterminante entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le 27 février. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Eva Rock.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 27 février, voici le journal de François Giffrier. Bonjour François.
Bonjour à tous.
À la une.
Un témoignage d'Europe 1 dès le début de ce journal. Une grand-mère du Pas-de-Calais qui appelle au secours Emmanuel Macron. Ses 3 petits-enfants sont en Syrie, sans solution. Les cadres qui perdent leur emploi vont-ils toucher moins d'allocations chômage? Le gouvernement fait cette proposition très politique. Et puis, pas la peine de dépenser 1000 euros dans un smartphone quand on peut avoir un modèle très puissant à 200 euros. On vous dira comment faire.
Europe 1.
Il n'y a pas de programme de retour de djihadistes français détenus en Syrie ou en Irak. Déclaration plutôt claire d'Emmanuel Macron hier. Ils seront judiciarisés dans ces pays, dit-il. Mais le problème reste entier pour les enfants qui ont grandi et parfois sont nés sur place ces dernières années. D'où cet appel désespéré d'une grand-mère, Lydie Manin-Keda, qui habite dans le Pas-de-Calais et dont les 3 petits-enfants âgés de 1 an, 3 ans et 5 ans sont dans un camp de réfugiés dans le nord-est de la Syrie. Leur mère est morte et leur père est prisonnier.
Je lance un SOS au président de la République concernant mes 3 petits-enfants qui ont perdu leur mère. Ils sont innocents, ils n'ont pas demandé à partir, ils n'ont pas demandé à naître dans un pays en guerre. Ils en ont subi beaucoup de souffrances, de séquelles. Le dernier a des cicatrices d'éclats d'obus sur le visage. Ces 3 enfants sont abandonnés, confiés à des femmes qui ne sont pas leur mère. Manque de nourriture, manque de médicaments.
Il y a urgence pour ces enfants?
Ah oui, il y a urgence, effectivement. Sur tous les plans. Moi, je pense que urgence sur le plan sanitaire, hein, pour qu'ils puissent être soignés efficacement en France. L'aîné a l'air assez traumatisé, il ne parle pas. Et je pense qu'il y a aussi urgence sur le plan donc, psychologique, hein, pour ces enfants de rentrer et d'être pris en charge par les services sociaux qui viennent vivre chez nous, qui viennent vivre dans la maison de leur mère, qu'on puisse leur donner une éducation, qu'on puisse leur donner un avenir de citoyens français. Et je pense que la France a le devoir de les rapatrier pour qu'ils puissent se reconstruire. Il ne faut pas prendre ces enfants pour des enfants dangereux. Ils sont innocents et victimes.
Mais est-ce que c'est concrètement possible d'aller chercher ces enfants dans un camp de réfugiés en Syrie?
Je ne vois pas la difficulté de mettre des enfants dans un avion. Ils sont repérés. On sait où sont ces enfants. Donc la décision, elle est gouvernementale. Alors qu'est-ce qu'on attend? Là, je parle pour mes petits-enfants, mais il y en a d'autres.
Un SOS, un témoignage européen de Lydie Manin-Keda au micro de Lionel Gougelot. Attention, si vous devez prendre la voiture aujourd'hui du côté de Lille ou de Paris, les véhicules notés 4 ou 5 sur les vignettes critères sont interdits à la circulation en raison d'un pic de pollution aux particules fines.
Stop à la précarité, le gouvernement veut freiner l'utilisation des contrats de travail trop courts.
C'est l'une des premières pistes de la réforme de l'indemnisation du chômage. Et puis, il y a cette autre idée plus inattendue, baisser les allocations chômage pour ceux qui avaient les salaires les plus élevés. Ils pouvaient toucher jusqu'à 7500 euros par mois une fois inscrits à Pôle emploi. Et même si cela concerne moins de 1000 personnes en France, c'est un vrai signal politique envoyé aux Gilets jaunes. Emmanuel Duteil.
Les Gilets jaunes demandent plus d'équité. Et bien là, le gouvernement tape dans la poche des salariés les plus aisés à moindre coût. C'est très bien joué, c'est très symbolique. Voilà le jugement d'un entrepreneur proche d'Emmanuel Macron qui avait poussé pour un tel dispositif. C'est pareil pour le bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Il faut y aller, ajoute ce proche. Il ne faut pas l'oublier, hein, cette taxation, c'était une promesse du candidat Macron. Ça peut être aussi un marqueur très important, complète un ministre de premier plan. Je ne sais pas si c'est une réponse directe aux Gilets jaunes, mais ce qui est sûr, c'est que cette crise permet de faire passer rapidement et fermement de telles mesures, confirme un autre proche. Il faut, dans tous les cas aujourd'hui, réformer dans une logique de plus de justice sociale. Et là, ça va totalement dans ce sens, assure ce proche. En tout cas, en ce moment, dans les ministères, ça phosphore. Les réunions se multiplient pour proposer des réformes liées au grand débat. Les grandes lignes seront arbitrées dans les jours à venir directement par Emmanuel Macron.
Emmanuel Duteil, chef des services économie et politique d'Europe 1. Alexandre Benalla et son ami Vincent Kras, en prison depuis une semaine, ont été libérés hier soir sous contrôle judiciaire. Ce même contrôle judiciaire qu'ils n'avaient pas respecté.
Et Europe 1, il est 6h04.
François, on revient sur un moment qui avait marqué le débat entre Emmanuel Macron et des jeunes. C'était au début du mois en Saône-et-Loire.
Oui, un étudiant de 19 ans, Clément Elias, avait ému la salle en expliquant comment il s'en sortait malgré sa dyslexie. Eh bien, il va recevoir aujourd'hui à la Sorbonne, à Paris, la médaille d'or de meilleur apprenti chaudronnier de France. Jean-Jacques Herry.
Clément Elias, vous le connaissez grâce à ça.
Je me présente, je m'appelle Clément Elias.
Le 7 février dernier, l'étudiant en BTS chaudronnerie, 19 ans, s'adresse à Emmanuel Macron devant une salle comble. Il détaille son parcours et surtout, très ému, il évoque son handicap.
Malgré mon handicap qui est la dyslexie, j'ai participé au concours Un des meilleurs apprentis de France et j'ai pu obtenir la médaille d'or nationale.
Cette médaille d'or, il la reçoit donc aujourd'hui à la Sorbonne, à Paris. Et vous allez l'entendre, il se montre beaucoup moins timide au téléphone que devant le président de la République. Sa dyslexie, dit-il, il l'a vaincue tout seul face à un bout de ferraille.
Ça m'a fait quand même une compétition, pouvoir se dépasser tout en restant dans le domaine qu'on aime. À l'atelier même, elle ne se voyait pas la dyslexie parce que j'adorais le manuel, tout ça. Donc dès que j'étais dans l'atelier, c'était mon élément. Et du coup, j'avais rien qui pouvait m'arrêter, quoi.
La suite après le BTS pour Clément Elias, ce sera une licence en chaudronnerie pour encore et toujours améliorer son savoir-faire d'artisan.
Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Et on termine ce journal avec un bon plan. Anissa, elle est toute attentive.
Ah oui, alors ça,
vous allez nous dire. Si vous voulez vous offrir un nouveau téléphone sans devoir vendre votre maison, on fait comment?
Oui, alors parce que c'est vrai que les smartphones, le prix a tendance à s'envoler pour les téléphones dernier cri. En ce moment même, au Mobile World Congress de Barcelone, c'est le salon consacré à la téléphonie mobile, difficile vraiment de trouver des modèles à moins de 1000 euros. Alors à côté de ça, il y a les téléphones reconditionnés. C'est une vraie tendance que nous explique Henri de Laguéry.
Les ventes de smartphones ont reculé de 6% dans le monde l'année dernière, une première dans l'histoire du secteur. Les appareils sont toujours plus chers, résultat, les consommateurs se tournent vers l'occasion. Remade, une entreprise basée dans la Manche, remet à neuf des iPhones et les revend ensuite avec une garantie de 12 mois. Ludovic Saint-Armand est l'un des responsables marketing.
On va être sur des téléphones très performants, mais qui vont être sur des prix beaucoup plus abordables. On peut commencer en dessous de 200 euros pour l'iPhone 6. Le deuxième intérêt, c'est la maîtrise de son impact environnemental. On évite des émissions de CO2, on préserve des ressources rares au niveau de la planète. Et puis en plus, c'est un acte citoyen puisqu'on achète un produit qui a été reconstruit en France dans notre usine qui est dans la baie du Mont-Saint-Michel en Normandie avec nos 500 opérateurs qui travaillent au quotidien pour reconstruire cet iPhone Remade.
Ces appareils d'occasion sont distribués en grande surface dans un emballage de la marque, présent dans 17 pays. Remade est en pleine croissance. L'entreprise a vendu l'année dernière 500 000 iPhones reconditionnés. Barcelone, Henri de Laguéry. Europe 1.
Et puis un mot de foot pour signaler la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe de France. Ils ont battu Dijon 3-0 hier soir.
C'était facile pour eux. C'était une soirée très très facile. Merci beaucoup. C'était le journal de François Geffrier.
Europe 1. Il est 6h07. Eva Roque.
À suivre cette historique, comprendre l'actualité grâce à l'histoire. Aujourd'hui, Fabrice Almeida évoque les relations américano-vietnamiennes. Et c'est dans un instant sur Europe 1.
Il est 6h08, Eva Roque sur Europe 1.
Et c'est l'heure de faire un point sur la tendance météo du jour avec vous, mon cher Laurent Cabrol. Tombez
tendance,
pas.
On ne sait plus que dire, parce qu'on tourne en rond. Depuis à peu près 5 jours, on dit qu'il va faire beau jusqu'à mercredi. Et puis la prévision est tout à fait juste, effectivement.
Ah, vous avez eu raison depuis le début de la semaine. Hein.
Oui, je ne suis pas le seul. Hein. Là où j'ai eu raison, si vous me permettez un peu
De frimer.
De hausser du col.
C'est allez-y.
Que j'avais annoncé ce type de temps dès le début du mois de février. Mais enfin bon, la parenthèse. Nous sommes à fin février et nous avons du beau temps. Et là, le temps change et je peux, en me glissant un petit peu dans le rôle du prévisionniste que je ne suis pas totalement, je pourrais dire qu'il va faire mauvais pendant à peu près une dizaine à 12 jours. Voilà.
Sortez de ce studio, Laurent. On se reparle tout à l'heure. Vous donnez aussi les numéros du loto ou pas?
En ce qui concerne les températures, c'est du 14 à 20 degrés au nord, 19 à Paris, 19 à Lyon, et puis entre 22 et 27 au sud, 22 degrés à Bourges et Clermont-Ferrand, et 27 degrés dans les Landes. Ce sont des températures très élevées, en sachant que la semaine prochaine, voyez, nous passons de 14 à 27, entre à 12 et 15.
Voilà. Bon, merci beaucoup quand même, on va en profiter. Merci Laurent, on se retrouve tout à l'heure. Comment ça se passe sur les réseaux sociaux, Anissa?
Ça se passe bien, vous êtes nombreux à nous écrire ce matin. On a découvert dans la presse que 45% des femmes appelaient leur moitié mon cœur. Donc on s'est dit, tiens, vous, comment vous appelez votre chéri au quotidien? Alors il y a Marion qui dit un petit chachou, tout simplement, qui se transforme en chachichou-chichou avec un ou deux verres de trop, avec modération. En fait, le problème, elle dit, n'est pas le petit nom qu'on se donne, mais plutôt les moments où c'est le prénom qui est utilisé.
C'est vrai,
ce que vous disiez tout à l'heure,
Anissa.
C'est pas bon signe. Isabelle nous dit mon crapaud, car il faut l'embrasser. Et il faut embrasser beaucoup de crapauds pour trouver son prince charmant. Et lui, il m'appelle ma crevette parce que je rougis facilement. Et c'est joli.
Oui, c'est mignon.
On a des jolies histoires d'amour hein, sur Twitter ce
matin.
J'ai
pas hyper envie d'embrasser un crapaud, autant vous le dire. Mais...
Et une crevette, je suis pas sûre non plus.
Non, non, ah non plus. Oui,
ah non,
c'est...
Non, okay.
Non, non.
Bon, bah,
ah ouais non, merci, c'est gentil. Aurélien.
Je suis prête
non.
à faire ça.
Bon. Non, non. Vous continuez à réagir sur Twitter, vous mettez un petit hashtag Europe 1 pour qu'on puisse vous retrouver. Merci beaucoup. Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Alors, qu'entre ici un homme heureux, regardez son petit sourire narquois, Jérôme Lacroix. Je le sais, vous êtes en vacances. Oui. Mais pour cela, une dernière épreuve vous attend. Proposez le meilleur journal des sports possible. Comme à chaque fois. À la une ce matin, non mais mieux que à chaque fois. À la une ce matin, un compte à rebours.
J-100, 100 jours tout juste nous séparent du début de la Coupe du monde de foot féminin organisée où, vous le savez,
En France.
Bah oui, 7 juin, 7 juillet, 52 matchs, 9 villes. Nice, Grenoble, Rennes, Le Havre, mais aussi Paris et Lyon. Lyon, place ô combien forte du foot féminin en France. Les demi-finales et la finale s'y tiendront. Alors en France, le foot féminin se porte bien. Plus 15% de licenciés en un an. Il y en a 170 000 selon la fédération. Les stades de plus en plus font le plein. Écoutez, l'une des joueuses françaises les plus capées, Élise Bousaglia, 33 ans, elle piaffe d'impatience.
C'est vrai qu'on y pense de plus en plus parce que la compétition approche, donc c'est vrai qu'on a hâte de débuter, on a hâte de fouler les pelouses de France avec justement ce public derrière nous, mais il reste encore un peu de temps aussi, il ne faut pas brûler les étapes et il faut continuer à bien se préparer et notamment... bien figuré pendant les matchs amicaux qui nous restent.
Et plus de 500 000 billets sur un total de près d'1,5 million disponibles ont déjà été vendus pour cette Coupe du Monde. Premier match pour les Bleus le 7 juin en France-Corée du Sud. Et d'ici là, Élise Bousaglia le disait, il y aura des matchs de préparation, dont demain soir à Laval, France-Allemagne.
On y reviendra à 7h45 avec Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France, qui sera l'invitée de Nikos Aliagas.
Le foot côté garçon et la machine PSG qui ne s'enraye pas. Les Parisiens sont en demi-finale de la Coupe de France ce matin. Ils ont hier soir battu Dijon en quart de finale 3-0. Alors ces derniers matchs au Parc des Princes, le PSG a marqué 11 fois au total, voilà qui plaît au défenseur belge Thomas Meunier, auteur d'un but hier soir.
Cette envie de chien enragé, de vouloir vraiment terminer l'adversaire, de mettre 3, 4, 5, 6, même 15 buts s'il le faut, c'est la mentalité qu'il nous faut. Il faut que l'adversaire nous craigne et que quand il vient au Parc des Princes ou même quand il nous accueille, qu'il se dise ouais, c'est PSG, ça va pas être facile directement avant le match. Et c'est ça l'esprit qu'on essaye de communiquer.
Et 28e victoire d'affilée pour les Parisiens en Coupe de France. Ils sont quadruples tenants du titre.
Jérôme, ce soir, il y aura aussi deux autres quarts de finale.
Oui, 18h30, Rennes-Orléans. 21h, Lyon-Caen, toujours sans Nabil Fekir blessé côté lyonnais. Bordeaux se prépare à accueillir un nouvel entraîneur, le Brésilien Ricardo, manager général depuis 6 mois seulement, est remercié. Faute de résultats, les Girondins sont 13e de Ligue 1. Éric Bédoué, qui gérait les entraînements, devrait lui aussi partir. Le tennis, c'est Gaël Monfils qui confirme sa super forme du moment. Le Français a battu hier au premier tour du tournoi de Dubaï le Croate Cilic, 10e mondial, 6-3, 4-6, 6-0.
Et on finit comme tous les matins avec l'histoire du jour, Jérôme.
L'entretien dans le journal L'Équipe ce matin de Didier Quillot, le directeur général de la Ligue française de foot, remonté contre les préfets et les pouvoirs publics. La Ligue 1 est prise en otage, dit-il. Il s'insurge contre les récents reports de matchs décidés par les autorités. 38 rien qu'en Ligue 1 ces 3 derniers mois. Les autorités mettent en avant la sécurité. Les forces de l'ordre mobilisées par les gilets jaunes ne sont plus assez nombreuses pour être suffisamment autour des stades. Certaines préfectures en font trop, selon Didier Quillot, qui parle de principe de précaution parfois impossible à comprendre.
Oui, ça s'appelle le principe de précaution, sinon. Ouais. Merci beaucoup Jérôme Lacroix et bonnes vacances. C'était pas mal. Je vous signe votre bon de sortie.
Allez,
alors, à une condition. Sont, voilà, c'est que vous jurez de revenir lundi. C'est pas pour moi, c'est pour Mathieu Noël et Céline Dacosta, parce que sans vous, ils sont complètement perdus. Vous êtes d'accord?
Bah, écoutez.
Ouais, avant de partir, vous écoutez quand même Fabrice Almeida.
Jusqu'au bout.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
Le président des États-Unis Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui au Vietnam son homologue de Corée du Nord Kim Jong-un. Les bonnes relations entre les États-Unis et le Vietnam, ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
Bah oui, ouais. Bah oui, chacun a en mémoire la guerre du Vietnam. Comme en Corée, elle oppose un Nord communiste à un Sud libéral. Elle s'intensifie à partir de 1960 quand un front de libération nationale communiste, le Viet Cong, est créé au Sud. Les États-Unis, inquiets de voir l'extension du communisme, appliquent leur théorie des dominos. Rappelez-vous, impossible de laisser l'hydre soviétique gagner un pays de plus, sinon c'est toute une région qui va s'effondrer. Le président Kennedy renforce donc l'intervention au Vietnam et les USA se lancent à partir de 1963 dans un conflit ouvert avec le Nord, soutenu, lui, par l'URSS et la Chine. En 1968, on comptera pas moins de 530 000 soldats américains sur place. Mais c'est un échec. Le président Nixon en prend acte et retire ses hommes en 1973, deux ans plus tard. En 1975, le Nord-Vietnam envahit le Sud et réunifie le pays. Le bilan de la guerre est terrible. 1,5 million de morts vietnamiens, 57 000 Américains tués et 300 000 blessés.
Et alors, quand est intervenue la réconciliation ?
Il a fallu attendre plus de 20 ans avant qu'une normalisation intervienne, car des prisonniers restaient détenus au Vietnam et les USA refusaient d'admettre leurs crimes de guerre. L'usage du napalm, l'usage de l'agent orange, un toxique qui était utilisé dans les zones forestières, et les liquidations de civils. C'est donc Bill Clinton qui a ouvert la voie de la normalisation en 1994 et ses successeurs ont poursuivi l'ouverture.
Quel objectif commun ont-ils aujourd'hui ?
En fait, les États-Unis et le Vietnam aujourd'hui regardent une nation comme un adversaire, c'est la Chine. Et ils ont en partage un nouveau sens du capitalisme et des investissements. Mais le Vietnam a maintenu ses liens avec la Russie, comme la Corée du Nord. Et donc, cette situation particulière l'a remis au cœur du jeu diplomatique.
Merci Fabrice Dalméda. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'histoire. Merci.
Europe 1.
Il est 6h16, Eva Roque. Debout les copains se poursuit, 2 heures d'actualité, de sourire et puis une invitée ce matin. À 6h20, nous serons en duplex de Londres avec Florence Mel, directrice des études dans une école de commerce. Elle vit à Londres depuis 18 ans. Une Française prête à s'engager politiquement au Royaume-Uni pour combattre les pro-Brexit. Son témoignage est à suivre sur Europe 1. Il est 6h18, voici l'essentiel de l'actualité de ce 27 février, Eva Roque. Attention, vous ne pourrez pas prendre la voiture aujourd'hui en région parisienne et dans la métropole lilloise si vous avez une vignette critère de niveau 4 ou 5 et ce en raison d'un pic de pollution aux particules fines. Les Pays-Bas veulent être à égalité avec la France dans le groupe Air France KLM. Le gouvernement néerlandais a acheté des actions de la compagnie pour tenter de peser plus dans la gouvernance et les décisions à venir. Et puis Donald Trump promet un avenir génial à Kim Jong-un, qu'il appelle son ami. Les dirigeants des États-Unis et de la Corée du Nord sont en pleine discussion à Hanoï au Vietnam sur le nucléaire et sur les sanctions internationales.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roque.
Voilà pour les principaux titres de ce mercredi 27 février. L'actualité, c'est aussi l'imbroglio politique britannique. Brexit ou pas Brexit, report ou pas report, nouveau référendum ou pas. Alors que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était prévue le 29 mars, Theresa May est toujours en train de chercher une solution. Et pendant ce temps-là, les Français installés en Angleterre se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Bonjour Florence Mellet.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin depuis Londres où il est 5h20, si je ne me trompe pas. C'est un réveil tôt. Vous êtes directrice des études à l'ESCP, une école de commerce. Vous êtes résidente à Londres depuis 2000. Et nous avions très envie de savoir comment une Française intégrée à la société anglaise vit cette période d'agitation avant la mise en place, ou pas d'ailleurs, du Brexit. D'abord, pourquoi vous êtes allée vivre à Londres ? C'était la City qui vous attirait ?
Alors en fait, je suis arrivée ici en 2001 et à l'époque, Londres était une ville tellement attractive, tellement dynamique, qu'il y avait énormément de Français qui quittaient Paris. Je travaillais à Paris et puis, j'ai dû démissionner et je suis venue m'installer à Londres avec ma famille. Et c'était un peu le rêve que beaucoup de Français étaient en train de vivre. Évidemment, depuis, ça a beaucoup changé.
Et 18 ans après votre arrivée, c'est ce que j'allais vous demander, vous vous sentez française ou anglaise ?
En fait, je suis en train de demander la nationalité britannique. Pour les Britanniques, je suis tout à fait française. Je suis une immigrée française, comme une autre. Mais c'est vrai que quand on a vécu ici depuis 18 ans, on a un peu changé par rapport aux Français de France.
Bien
sûr. Quelquefois, on sent un petit décalage quand on rentre en France.
Pourquoi vous voulez demander la nationalité britannique ?
Mais je suis très inquiète. C'est vrai que là, on n'a un peu aucune confiance en ce que nous raconte le gouvernement britannique, puisqu'il y a des changements, des demi-tours toutes les 5 minutes. Donc on nous a promis qu'on allait pouvoir toujours avoir accès au système de soins, qui est le NHS, qui est un système de soins gratuit. Mais on n'est pas sûr que ça va continuer.
Oui.
Et puis ensuite, pour la retraite, moi je cotise ma retraite ici. Que va-t-il se passer pour ma retraite ? Je ne sais pas. Je préfère assurer mes arrières et prendre la nationalité britannique.
Qui vous permettra de bénéficier encore d'un système de santé, notamment ?
Oui. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et bon, d'avoir une situation sûre, j'aurais pas besoin de permis de travail ou de permis de séjour.
Ça veut dire que la perspective de ce Brexit, pardon, vous stresse ?
Ah, on est tous extrêmement stressés, on est tous très 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 inquiets. Et beaucoup de Français sont déjà partis.
Oui.
Beaucoup de Français disent qu'ils refuseront toujours de prendre la nationalité britannique et que de toute façon, si les Anglais ne veulent plus d'eux, ils partiront. Dans mon cas, moi, je pense qu'après 18 ans, ça me serait vraiment très difficile de quitter le Royaume-Uni et je préfère prendre la nationalité britannique. Même si je sais que je ne serai jamais considérée comme une vraie et citoyenne britannique et je serai toujours considérée comme une immigrée. Mais bon, voilà, c'est un choix personnel.
Est-ce que depuis ce vote, vous ressentez une forme d'agressivité à l'égard de la communauté française ? La ville vous semble moins tolérante ?
La ville est moins tolérante. Alors, c'était surtout vrai après le vote, l'année donc 2016-2017. Là, il y avait beaucoup d'agressions anti-européennes vis-à-vis de Français, d'Espagnols, de n'importe quelle nationalité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu un revirement de l'opinion publique. Il y a plus de sympathie envers l'Europe. Les gens ont un peu évolué. Alors, il y a peut-être un peu moins d'agressivité. Mais quand même, c'est vrai que l'Angleterre, on se rend compte maintenant à quel point c'est une société extrêmement raciste et intolérante.
Vous avez assisté,
ce qu'on ne savait pas avant.
Oui, vous assistez à ce genre d'agression ?
Ben, ma fille a été victime d'une agression dans le bus parce qu'elle était avec ses amis et qu'il parlait français, oui.
D'accord, mais une agression grave ou c'était une agression verbale où on lui a reproché de parler en français ?
C'était une agression verbale, mais il y a deux de ses amis, enfin une fille qui a pris un coup de poing dans le ventre quand même.
Ah oui, d'accord, oui.
Et un garçon qui avait été plaqué contre la fenêtre du bus. Donc c'était quand même physique.
Florence Mellet, vous vous êtes déjà présentée aux élections locales. Vous avez envie de poursuivre cet engagement politique.
Tout à fait.
Quelle est votre ambition ? Sur quel plan vous avez envie d'agir ?
Quand on se retrouve dans une situation politique qui affecte tout le monde vraiment de façon tragique, comme le Brexit, je pense que c'est un peu notre devoir de nous impliquer en politique. La politique, ça affecte tout le monde et ça nous affecte profondément. Donc c'est un peu notre... Vraiment, on doit s'impliquer en politique. Donc je me suis impliquée en politique avec le Parti libéral-démocrate, qui est le parti britannique centriste. J'ai été en effet... candidate aux élections locales. Et
vous,
puis
parce
là,
qu'on peut vous le permettre, hein, pardon, je vous coupe, on peut en Angleterre...
En tant que Française, on peut, être, voilà, on peut se présenter aux élections locales et aux élections européennes. Bon, évidemment, je pense que cette année, il n'y aura pas d'élections européennes, donc je ne vais pas me présenter. Mais une fois que j'aurai la nationalité britannique, je pourrai me présenter au Parlement. Et c'était un peu ça mon ambition, hein, c'était de me présenter au Parlement.
Il y a déjà des Français qui ont été élus au Parlement britannique ?
Alors, il faut avoir la citoyenneté,
d'accord.
Ce que je vais avoir bientôt. En fait, là, avec le Parti Lib Dem, j'ai dû passer un examen pour être candidat parlementaire. Cet examen, je l'ai réussi et je suis la première Française à l'avoir réussi. Donc, je pense qu'une des conséquences du Brexit, c'est aussi qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux Britanniques, les Britanniques du Brexit, comme nous,
oui.
Qui vont s'impliquer en politique.
Ah oui, c'est une nouvelle nationalité, les Britanniques du Brexit, c'est ça ?
Oui, mais c'est ça, moi je vais être une Britannique du Brexit. Oui,
et rassurez-nous, il y a bien un petit truc français qui vous manque au quotidien, Florence Mellet.
Évidemment, la France, c'est une qualité de vie tellement extraordinaire qu'elle nous manque tous les jours, un petit peu.
Évidemment.
Et la France, c'est un tellement beau pays. Moi, chaque fois que je rentre à Paris pour mon travail, je suis toujours émerveillée d'être à Paris. Eh ben, c'est magique.
Mais
la
oui,
France, c'est magique. Ouais, c'est sûr.
Merci infiniment, Florence Mellet, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On vous souhaite évidemment bonne chance dans votre carrière politique. Merci à notre correspondante Anaïs Cordoba qui a permis ce duplex depuis Londres.
Europe 1. Il est 6h25, Eva Rock.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. Laurent Cabron nous dit tout sur la météo du jour.
Il est 6h27, Eva Rock.
Avant de retrouver le journal de 6h30, on retrouve Laurent Cabrol. Laurent, vous nous avez annoncé la pluie pour demain, mais oui. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être que vous vous trompez en fait.
Bah, c'est-à-dire que la météo en matière de prévision, bien sûr, vous savez bien, n'est pas fiable.
Si je
à 100%.
Souffle sur les nuages, si je fais...
Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'on connaît assez peu les réactions d'anticyclones. On arrive bien à prévoir tout ce qui se passe en matière des pressions, on arrive à voir les pluies arriver, enfin les pluies, on peut vraiment là être assez fin. Mais sur l'anticyclone, il a des réactions C'est un peu comme une dame, quoi. Une direction que l'on ne maîtrise pas toujours.
Et alors, attention, de temps en temps, Laurent. Aussi, Laurent.
De temps en temps, il peut avoir une petite tentacule qui sort boum, et qui vient nous apporter le beau temps. Mais c'est trois fois rien. Hein.
Ah, donc il y a peut-être un espoir.
Donc, il y a, avec l'anticyclone, il y a toujours des surprises. Quelle qu'elle soit, il y a toujours des surprises. Donc, c'est pas 100% de la pluie pendant 10 jours, non. Mais la probabilité est assez grande.
Je suis en train d'imaginer une tentacule qui sort d'un nuage, quoi. Vous êtes un poète, Laurent Cabrol. Je vous adore, vraiment. Revenez.
Ça s'appelle une courbe isobare.
D'accord. Ah oui, bah c'est moins fun.
C'est mieux, tentacule.
Ah, je préfère la tentacule. Merci beaucoup, Laurent. Merci, et dans une minute, c'est le journal de 6h30.
Europe 1. Europe 1. 5h, 7h, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, soit 2 heures d'information et de bonne humeur. Après le journal écrit et interprété magistralement par David Doucan, rendez-vous avec vos trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos experts décryptent l'actualité pour vous. Ce matin, Adrien Beck nous expliquera à quel point la laïcité est un sujet de discorde au sein de La République En Marche. Axel de Talleyrand évoquera la démocratisation de la contrebande. Et oui, nous achetons de plus en plus de contrefaçons et il s'appelle Axel de Tarlet. Et Aurélien Fleureau a visionné pour nous une fiction diffusée sur France 2 ce soir avec dans le rôle titre Sarah Forestier.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes le 27 février, il est 6h30.
5h-7h, Eva Rock. Voici le journal de 6h30 avec David Doucan qui me trouble. Bonjour David.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Trois titres à la une, David.
Il fait beau, mais on respire mal. Les véhicules les plus polluants interdits aujourd'hui à Paris et à Lille. On vous rappelle les règles dès le début de ce journal. Attention, il y aura des contrôles de police. La réforme de l'assurance chômage, les salariés avec des hauts revenus sont dans le viseur et en même temps, ce sont eux qui cotisent le plus. Reportage à suivre. Comment compléter ses revenus quand on est agriculteur? Ils sont nombreux à devenir pourvoyeurs et vendeurs d'énergie grâce à la méthanisation. On vous explique tout ça à la fin de cette édition.
Europe 1.
C'est comme ça, dès qu'il fait beau, dès qu'il n'y a pas de vent, les particules fines s'installent sur nos villes et dans nos poumons. Pic de pollution depuis plusieurs jours en région parisienne notamment. La province n'est pas épargnée, à Lille par exemple. Alors le gouvernement a décidé d'interdire l'accès de Paris et de sa proche banlieue, mais aussi celui de Lille aux véhicules les plus polluants, Aude Vernuccio.
Oui, c'est une première dans le Nord. Décision prise après 3 jours consécutifs de pollution au-dessus du seuil minimum. Alors même principe qu'à Paris, les vignettes critères 4 et 5 sont interdites de circulation sous peine d'amende. 68 euros, on le rappelle. Sauf si vous faites du covoiturage. Là, vous pourrez circuler même avec un véhicule polluant à condition que vous soyez plus de 2 dans la voiture. Ça concerne au total 12 communes de la métropole lilloise. En Ile-de-France, tous les véhicules polluants sont interdits de circulation à Paris et en proche banlieue. La frontière, c'est l'autoroute A86 qui entoure la capitale. La vitesse est toujours abaissée de 20 km/h sur les grands axes, tandis que les véhicules de plus de 3,5 tonnes devront contourner la zone par la francilienne. Et puis pour inciter les franciliens à prendre les transports en commun, sachez qu'un forfait spécial de 3,80 € est mis en place aujourd'hui et le covoiturage sera gratuit.
Alors si on se fait attraper, c'est 62 euros l'amende.
68.
C'est bien ça.
68. Attention,
j'ai bien fait de vous demander. 68 euros si on se fait attraper avec un véhicule interdit. L'État néerlandais s'invite au capital d'Air France KLM pour défendre ses intérêts. Le gouvernement des Pays-Bas a acheté des actions pour avoir une participation de 12,68% dans la compagnie aérienne. Acquisition réalisée par surprise. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, a d'ailleurs froidement réagi, regrettant que le gouvernement n'ait pas été informé. Pour rappel, la France détient 14,3% du groupe. La réforme de l'assurance chômage passera notamment par une diminution de l'indemnisation pour les salariés avec de hauts revenus. Aujourd'hui, ils peuvent, lorsqu'ils se retrouvent au chômage, toucher jusqu'à 7 700 euros pendant 24 mois. Pour trouver des économies, le gouvernement a repris la main sur ce dossier. Il veut changer cela, mais cela pose question parce que ces salariés ont aussi cotisé plus que les autres pendant des années. Reportage Arthur Mbaché.
Les bons mois, elle gagne 15 000 euros net. Alexandra est cadre dirigeante dans une société de services en province. Si elle se retrouve au chômage demain, c'est 7 700 euros tous les mois pendant 2 ans. Voilà ce qu'elle pense de l'idée de ramener cette somme à peu près 5 000 euros.
Moi, j'ai besoin d'être sécurisé sur tout un train de vie à côté que j'ai pas volé, que j'ai gagné au fruit de mon travail. Moi, aujourd'hui, en gagnant ce que je gagne, j'ai fait aussi des prêts immobiliers. Donc, bien sûr, on pourra toujours me dire change de maison, mais moi aussi, je pense travailler et contribuer très fort à ma force de travail pour ne pas avoir à changer de maison. Comme tout le monde, c'est un besoin humain.
Pour Alexandra, on doit recevoir à hauteur de ce qu'on donne, dit-elle.
Si on amène beaucoup aussi à la société, alors pourquoi ne pourrait-on pas aussi, en retour, recevoir ce qui est au prorata ?
Et vous estimez que vous amenez beaucoup à la société ?
Très sincèrement, oui. Ouais. Moi, j'ai fait une création de plus d'une centaine de CDI en 3 ans. Je ne pense pas voler mon argent si un jour, pour X raison, je suis au chômage et que je souhaite profiter de cette indemnisation-là parce que je souhaiterais remonter une entreprise ou un business quelque part.
C'est aussi comme ça qu'Alexandra conçoit l'indemnisation du chômage des cadres comme un tremplin pour monter un projet, dit-elle, et créer de la richesse.
Arthur Mbaché pour Europe 1. Le gouvernement envisage aussi d'instaurer un bonus-malus pour faire payer davantage les patrons qui abusent des contrats précaires. Ce soir, à Hanoï, au Vietnam, Donald Trump et Kim Jong-un dîneront ensemble. Temps fort d'un sommet de 2 jours, le président américain a préparé le terrain. Dans un tweet, il promet, je cite, « un avenir génial à la Corée du Nord si elle décidait de renoncer à son arsenal nucléaire ».
À suivre dans ce journal, 50 kilos d'héroïne saisies, 10 personnes mises en examen, gros coup de filet et ça se passe en Charente-Maritime. À tout de suite.
Il est 6h34. Europe 1. Il est 6h36, Eva Rock.
La suite du journal, David Doucan, et vous nous parlez maintenant d'une impressionnante saisie d'héroïne.
Oui, cela s'est passé il y a quelques jours en Charente-Maritime. La police a mis la main sur 50 kilos d'héroïne. 10 personnes ont été mises en examen et 7 écrouées. La drogue devait alimenter la façade ouest de la France, Pierre de Cossette.
Un pavillon en banlieue de Rotterdam, deux camionnettes qui s'arrêtent et des passagers qui y chargent de petits paquets dans des caches aménagées. Les policiers n'en ont pas raté une miette, mais ont attendu le retour du convoi en France pour l'intercepter. Oh, pas un go-fast qui roule en trombe, mais un convoi tranquille, route secondaire, 24 heures pour regagner Saint-André-de-Lidon, 1000 habitants, à quelques kilomètres de Royan, où attendaient sagement les enquêteurs de l'office des stupes de Bordeaux et leurs camarades de la BRI. À bord, 52 kilos d'héroïne. Pour 11 d'entre eux, l'appareil de test a viré au noir, signe d'une pureté dépassant les 90%. Valeur au détail, 4 millions d'euros. Plus modestement, le père de 60 ans, son épouse et leur fils, suspectés d'être des grossistes à la tête du travail, espérait une marge de 400 000 euros. Combien de livraisons jusque-là ? Au moins 2, pensent les policiers. De quoi s'offrir un cabriolet allemand, un catamaran et 2 chevaux de course. La PJ a également saisi plus de 100 000 euros sur un compte en banque et trouvé chez la famille un petit laboratoire destiné à couper et reconditionner cette héroïne destinée à la façade atlantique.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe. Dans les travées du salon de l'agriculture, cette semaine, Porte de Versailles à Paris, on parle bien sûr beaucoup niveau de vie et pouvoir d'achat, le revenu moyen d'un exploitant en France est de 1300 euros. Alors nombreux sont ceux qui se diversifient pour arrondir les fins de mois, notamment avec la méthanisation. Ce procédé permet de transformer les déchets de l'exploitation en source d'énergie, ensuite revendue aux communes. Reportage de Maud Descamps sur l'une de ces exploitations en Seine-et-Marne.
Entre leurs 250 vaches limousines et leurs 300 hectares de champs de céréales, Moritz et son frère Jacques-Pierre ont été parmi les premiers en 2013 à installer un méthaniseur sur leur exploitation. 3 gigantesques cuves en forme de yourt de 20 mètres de diamètre sous les dômes. C'est là que le fumier se transforme en gaz, explique Moritz.
On va prendre la matière organique comme le fumier qui est devant nous ou des poussières de céréales qu'on va incorporer dans ce bol mélangeur. Et ce bol mélangeur, toutes les heures, va alimenter le méthaniseur qui va produire le biogaz.
Le gaz est ensuite injecté directement dans le réseau de GRDF et alimente 6 communes voisines, une source de revenus précieuse pour l'exploitation.
Ça a doublé le chiffre d'affaires de l'exploitation et après les années difficiles que l'on vient de passer, en particulier après l'année 2016, on est très content d'avoir ce troisième pilier, cette troisième activité qui est la méthanisation, puisque ça nous permet de voir l'avenir de façon beaucoup plus sereine.
Un avenir serein mais aussi plus vert, puisqu'en plus du biométhane, le méthaniseur produit avec les déchets un engrais naturel que les 2 agriculteurs récupèrent et utilisent pour leurs champs de céréales.
Maude Descamps pour Europe 1. Et nous connaissons depuis quelques instants le futur président du 72e Festival de Cannes au printemps prochain. Il s'agit du réalisateur mexicain Alejandro Iñárritu, 55 ans, multi-oscarisé Iñárritu, pour des films comme The Revenant ou Birdman. C'est la première fois qu'un artiste mexicain est choisi pour présider le jury du Festival de Cannes. Et justement, les organisateurs l'ont fait volontairement pour célébrer tout le cinéma mexicain.
C'est un excellent choix, excellent réalisateur. Merci, c'était le journal de David Doucan. David, nous vous retrouvons pour une nouvelle édition à 8h. Mmh. Et à 8h15, vous serez face à quelle politique ?
Je reçois le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Là, je pense que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de questions à lui poser.
Il y a beaucoup de sujets,
on est d'accord. Et du côté du ciel, Laurent Cabrol, est-ce qu'il y a matière à discussion ?
Non, malheureusement, aujourd'hui, heureusement pour aujourd'hui, les dés sont jetés. Malheureusement pour les jours suivants, les dés sont sont jetées aussi, la pluie revient demain. Donc les températures ce matin sont froides, hein, un peu comme ces jours derniers. Moins 1 degré en Alsace, nous avons du 2 degrés à Lyon, c'est pas cher, hein, 4 en banlieue parisienne, 6 à Lille, 8 à Bordeaux et 11 à Montélimar. Et puis des valeurs maintenant pour l'après-midi, qui elles seront vraiment très très élevées pour la saison. 14 à 20 degrés au nord, hein, Paris 19, et 22 à 27 au sud, 27 dans les Landes, 25 du côté de Bordeaux, 23 à Biarritz, 22 à Bourges et Clermont-Ferrand. Bref, ce sont des températures vraiment très sympathiques.
Merci beaucoup Laurent. Anissa, depuis 5h oui. ce matin, vous vous immiscez dans la vie privée des auditeurs.
Ouais, et dans la vôtre aussi. Effectivement, j'ai demandé aux auditeurs quel était le petit surnom qui se donnait en couple comme ça. Alors, je viens de découvrir que Laurent Cabrol, parce que du coup, j'ai tendu l'oreille aujourd'hui. Oui. Alors, Laurent Cabrol vous appelle ma poussette.
C'est vrai.
David Doucan rentre en studio, vous dit mon chaton. Bah, alors, c'est bien, on va tout vous dévoiler
mais
aujourd'hui sur
Europe
1.
Mais ça, on n'est pas en couple, hein. C'était pas la question, vous savez.
Enfin, on passe toutes nos nuits ensemble, là, d'accord. quand même. Donc, Florent nous dit, moi, c'est Doudou, mais Poupinette dort, chute. Il y a Véro Sangène qui nous dit, ici, c'est Chatsy. Et Chatsy, ça veut dire mon trésor.
Voilà. Ah, c'est joli.
Et puis, Ludovic Cruchot qui nous dit, ma biche, évidemment. Et oui, le ma biche de Louis de Funès dans Les Gendarmes, qu'il disait avec beaucoup d'amour à Claude Jansac, on s'en souvient. Continuez à nous donner vos petits surnoms sur Twitter.
Merci beaucoup, Anissa.
Europe 1.
Il est 6h41, Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures au carrefour de l'info et de l'humour avec beaucoup de rigueur et un soupçon de légèreté. À suivre, politique, économie, médias, l'actualité vue par nos trois fantastiques et des sujets qui font parler.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Eva Roque.
On vous alerte depuis ce matin, les véhicules les plus polluants sont interdits à la circulation à Paris et dans sa proche banlieue. Même chose à Lille, conséquence d'un pic de pollution en particules fines qui dure depuis plusieurs jours. Ce soir à Hanoï, au Vietnam, Donald Trump et Kim Jong-un dîneront ensemble, temps fort d'un sommet de 2 jours. Le président américain a préparé le terrain dans un tweet. Il promet, je cite, « un avenir génial à la Corée du Nord si elle décidait de renoncer à son arsenal nucléaire ». Et puis ce fut une formalité pour le Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 hier soir au Parc des Princes face à Dijon en quart de finale de la Coupe de France. À suivre ce soir 2 autres quarts de finale. Rennes-Orléans à 18h30 et Lyon-Caen à 21h.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roque.
Il est 6h44 et l'heure de retrouver nos super-héros de l'info. Voici donc les trois fantastiques. Aurélien Fleureau pour les médias, Adrien Beck pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Et nous débutons avec la politique et vous, Adrien Beck. Décathlon renonce finalement à proposer à la vente un hijab adapté pour faire de la course à pied. Il faut dire que le gouvernement s'en est mêlé. C'est une vision de la femme que je ne partage pas, a estimé la ministre de la Santé Agnès Buzyn, suivie d'ailleurs par plusieurs députés de la majorité. Position très claire, Adrien Beck. Mais est-ce qu'elle est partagée par toute la Macronie ?
Eh bien, 2 déclarations pour vous répondre, toutes 2 sur cette polémique qui a enflammé la classe politique hier. La première, la laïcité, ce n'est pas l'athéisme d'État. Cette obsession du voile et de l'islam est une exception française dont on se passerait bien. Seconde déclaration, le sport ne soumet pas, mon choix sera de ne plus faire confiance à Decathlon, marque qui rompt avec nos valeurs. Sauf que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces 2 réactions très tranchées ont bien été écrites par 2 députés du même parti. 2 députés de la majorité En Marche, en l'espèce Aurélien Taché et Aurore Berger. Éphémère polémique Decathlon, révélatrice de fractures profondes et permanentes au sein de la majorité, entre des visions de la laïcité, du communautarisme aux antipodes les unes des autres. Et voilà que renaît un clivage d'autant plus vivace et exacerbé que le sujet est sensible.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne en fait sur la laïcité au sein de la Macronie ?
Eh bien, difficile de la trouver, en tout cas dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Seulement 1 petit paragraphe sur la laïcité, 3 promesses plutôt que des propositions concrètes. Nous appliquerons strictement le principe de laïcité. Nous n'étendrons pas l'interdiction du voile à l'université. Nous démantèlerons les associations qui, sous couvert de religion, s'attaquent à la République. Difficile de résumer une vision en 3 propositions. Un texte pour toiletter la loi de 1905 était dans les tuyaux en fin d'année. Il semble désormais dans les limbes. Emmanuel Macron, lui, s'exprime rarement sur le sujet. Quand il le fait, c'est pour développer sa conception. La République est laïque, pas la société. Plus un constat qu'une position claire, estime un cadre du groupe En Marche. De quoi laisser place à l'interprétation, dit-il. Et comme si le sujet était glissant jusqu'au sein du gouvernement, une ministre assure qu'aucun débat sur la laïcité n'a eu lieu entre les ministres.
Alors, est-ce que les députés vont finir par se mettre d'accord dans
ce
contexte ?
Quelle que soit leur conviction sur le sujet, la plupart des députés marcheurs ont au moins un point d'accord. Ça risque d'être très compliqué. Ah oui. Tant les visions semblent irréconciliables. Comme les ministres, les parlementaires non plus n'ont jamais parlé de laïcité ensemble. Opportunité de mettre un peu les choses au clair. Le 20 mars, Marlène Schiappa organise un débat au sein du mouvement. Son titre « Faire vivre l'esprit de 1905 en 2019 ». Un député laïcard qui compte s'y rendre l'assure dans un sourire. Ça risque d'être animé.
Grand débat à venir. Merci beaucoup Adrien Beck pour cet éclairage sur ce sujet qui a animé les conversation hier. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. La contrefaçon ne cesse de progresser. En France, les saisies de cigarettes par les douanes ont progressé de 15% pour l'année 2018.
Voilà, alors, ce qui est très intéressant, ça, plus 15%, ça concerne le nombre d'infractions constatées. En revanche, si vous regardez le volume en kilos, le nombre de cigarettes saisies par les douanes ne progresse pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'énormes grossistes. Et en fait, le problème, c'est que pas tous les Français, mais beaucoup de fumeurs s'improvisent trafiquants du dimanche. C'est-à-dire qu'ils achètent leurs cigarettes sur Internet
évidemment.
Ils se disent, bon, je ne me ferai pas prendre, alors même si c'est condamnable. Voilà, et c'est ainsi qu'avec avec Internet se développe le petit trafic personnel, si vous voulez. Et c'est un phénomène plus large, d'ailleurs, qui ne concerne pas que les cigarettes. C'est avec Internet, vous avez de plus en plus de trafiquants du dimanche. Si vous tapez, par exemple, parfum pas cher sur Google, ou si vous tapez chaussures, baskets sur basket pas cher, très certainement, vous allez être orienté sur des sites qui vont vous proposer des faux, qui vont vous proposer de la contrefaçon qui vous sera expédiée depuis la Chine. Et c'est ce qui, sans même que vous le sachiez d'ailleurs, par moment, on va vous proposer des fausses marques. Dans 37% des cas, l'internaute ne sait même pas qu'il achète un produit de contrefaçon. Résultat, la contrefaçon pour 2018 ne cesse de progresser. C'est près de 7 milliards d'euros maintenant qui sont perdus rien que pour le marché français au profit donc des grandes marques. Alors la quasi-totalité de ces produits contrefaits viennent de Chine. Alors on peut se dire jusqu'où ça va aller. C'est que même la Chine, ça commence à l'inquiéter, parce que quand un pays encourage la contrefaçon, ça ne récompense pas l'innovation, ça ne récompense pas la recherche. Or, comme la Chine en ce moment veut développer des grandes marques comme Huawei avec l'innovation, vous comprenez bien que si toutes les innovations sont copiées et que la recherche n'est pas...
Ça peut leur arriver aussi à eux.
Voilà, ouais. Et donc c'est pour ça que même les Chinois commencent à s'attaquer à ce fléau qu'est la contrefaçon et qui est facilité avec l'essor d'Internet.
Je ne vous demande pas si vous avez déjà acheté contrefaçon.
Non,
surtout
non.
pas.
Non, surtout
en
pas.
Tout cas, il faut
jamais
bien regarder
à Barcelone sur un marché quand on voit des fonds grandes marques
non,
à 20 euros. Jamais.
Mis au marché à Vintimille, côté
non,
de Nice.
Il faut bien regarder
Aurélien.
Où le site est hébergé. Hein.
Oui,
clairement,
c'est vrai.
Si c'est pas en Europe, c'est plutôt mal parti. Hein. Le basketpascher.com voilà. Dont parlait Axel. Voilà. Si c'est pas hébergé en Europe, mieux vaut pas y aller.
Précisez que c'est pas un site, hein, basketpascher.com.
Non,
c'est une expression dans votre.
C'est ça.
Voilà.
C'est l'idée.
Merci beaucoup, Axel de Tarlé. Aurélien, les héros de fiction français, notamment, fument de moins en moins dans les téléfilms. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ce soir, mais vous nous recommandez bien une fiction.
Il n'y a aucun moment, je crois, où il fume. Hein. Je crois, je pense qu'il n'y a pas de scène.
Et oui,
y a pas de
moins
scène,
en moins.
Voilà,
la loi Evin est passée par là aussi.
C'est plus l'idée, effectivement. Ce soir, téléfilm à suspense sur France 2. Disparition inquiétante. L'histoire se déroule à Strasbourg. Un groupe de 9 élèves d'une école protestante vient de terminer de visiter la cathédrale et subitement, en quelques secondes, l'enseignante qui les accompagne s'effondre sur le parvis. Elle meurt et dans le même temps, les élèves s'évaporent dans la nature. On n'a plus aucune trace d'eux.
Alors, c'est un pitch efficace. Est-ce que le casting est à la hauteur de ce pitch ?
Oui, notamment les deux rôles principaux qui sont la commissaire, Maya Rossetti, interprétée par l'excellente, je trouve, Sarah Forestier, et puis la procureure de la République, jouée par Valérie Carcenti, évidemment connue des téléspectateurs pour son personnage de Liliane dans Scène de ménage sur M6. Bon, là, évidemment, rien à voir. Elle incarne l'autorité, le sérieux, face à la personnalité plus fantaisiste, on va dire, de la jeune commissaire qui débarque dans une région qu'elle ne connaît pas du tout. Une commissaire un peu lunaire, mais efficace.
Concernant les enfants, il n'y a aucun lien personnel qui puisse éclairer un enlèvement global. Reste l'école. Une école protestante, religieuse. Il y a eu un piratage informatique il y a un mois.
Ah.
Est-ce que c'est en lien? C'est à vérifier. Mais on peut imaginer effectivement une familiarité avec l'établissement, que ce soit celle d'un ancien élève ou même d'un employé. La seule certitude qu'on a, c'est que c'est une organisation planifiée et méthodique.
Vous avez fait ça en une heure?
Oui. En même temps, je viens de la berber, hein, j'ai pas fait hôtellerie.
Donc c'est une course contre la montre pour retrouver les enfants. C'est rythmé, c'est bien écrit. Puis il y a pas mal de petites touches d'humour. On vient de l'entendre. Autre extrait, quand la commissaire Rossetti doit rappeler son ex. Il est pédopsychiatre. Il a suivi l'un des enfants disparus. Elle a besoin de lui, mais au départ, c'est pas gagné.
Allô Clément?
Oui, c'est Maya.
Bon, je sais que j'ai encore des affaires à récupérer chez toi, tout ça là. Bon, mais je t'appelle pour autre chose. En fait, un de tes patients, Antoine Matossian, ça te dit...
Maya. Tu sais quel nom s'affiche sur mon portable quand tu m'appelles? Folle dingue.
Voilà,
ah, c'est sympa.
C'est pour ça que c'est pas
sympa,
gagné.
Voilà.
Et puis un petit mot juste pour finir sur la musique là qu'on entend, l'ambiance sonore. Franchement, elle colle vraiment parfaitement au scénario et elle est signée La Grande Sophie.
Et puis un petit détail en plus, ça pourrait être le pilote d'une prochaine série si les audiences sont là ce soir. Les deux personnages forts de ces deux femmes pourraient revenir. Exactement. Merci beaucoup Aurélien Fleureau, Axel de Tarlé, Adrien Beck. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Il est 6h52, Eva Rock.
Debout les copains touche à sa fin. Dans quelques minutes débutera la matinale de Nikos Aliagas. Nikos qui peut se targuer d'une culture musicale bien plus importante que Mathieu Noël. Car dans la série Les absents ont toujours tort, je m'en vais vous dévoiler le manque de flair de mon acolyte préféré. Préparez vos oreilles.
Il est 6h55, Eva Rock.
Debout les copains s'apprête à céder la place à la matinale de Nikos Aliagas. Et il faut reconnaître en préambule que Mathieu Noël est doté d'une très grande culture générale, même si parfois tout n'est pas très clair dans son esprit.
Comment vous voyez que ces deux combats peuvent se rejoindre?
Voilà, c'est un petit bafouillage de rien du tout, ça arrive à tout le monde. Sauf que parfois, en plus de ne pas être très clair, Matouné peut manquer de lucidité ou de flair en tout cas. Parce que le jour où il a entendu ça... Anissa, vous savez ce qu'il m'a dit à ce moment-là? C'est de la... ça ne marchera jamais. Voilà. Alors hier, nous apprenions que le clip de cette chanson maléfique, Despacito, était la vidéo YouTube la plus vue au monde, soit 6 milliards de vues. Alors en revanche, Anissa, n'essayez pas de rivaliser avec Mathieu Noël sur FIFA,
ouais,
le jeu
champion,
vidéo
je
de football.
Sais,
et oui, Mathieu est un champion. Mmh. Il est même connu pour son très grand calme et puis surtout pour son grand fair play.
Parce que hier, moi, j'ai cassé une manette. Parce que je fais, vous le savez, une très très belle saison dans FIFA. Et là, à l'issue de ma troisième saison et de ma troisième Ligue des Champions, gagnée, j'ai été sélectionné pour sélectionner l'équipe de France. On m'a proposé d'entraîner l'équipe de France. J'ai mis oui, j'ai signé le contrat, seulement j'ai pas sauvegardé. Et la partie d'après, ils avaient oublié. Et c'était le Costa Rica qui me proposait de devenir entraîneur. Alors j'étais dégoûté et j'ai fracassé la manette par terre.
Voilà, il est fou
les jeux vidéo, on en a la preuve. En même temps, il est supporter de l'OM.
Exactement. Privé de crâne, c'est vrai. Privé de manette, privé de jeu. Il a tout perdu, Mathieu Noël. Et puis peut-être qu'il lui reste à danser sur un air de.
Fait ça en Suisse là tout de suite. Hein.
Peut-être.
En train de danser sur ça.
On va lui poser la question.
On n'a jamais autant parlé de Mathieu Noël depuis qu'il est plus là.
Non, se venge, se venge, Nikos Aliagas.
Il nous fait souffrir toute l'année.
Eva Rock,
j'ai une
merci.
Semaine pour me venger. Vous pensez bien que j'en profite.
Il vous reste trois jours. Allez-y.
Voilà, merci.
À peine. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde.